dessert maintenant. Hein? C'est, fallait pas arrêter. C'était tellement bon, tellement bien. Voilà, mon épouse s'appelle Lorraine. C'est ma première épouse, c'est mon seul épouse, et la voilà, comme ça. Nous avons deux enfants. Je vais demander aux gens derrière de monter l'annonce, l'annonce PowerPoint, s'il vous plaît, en arrière de moi. En effet, je n'étais pas censé être là ce matin. Et je vais vous confesser que je suis complètement épuisé. Parce que j'étais en réunion à Calgary toute la semaine, des réunions de planification, des réunions de leadership pour notre mission. Et avec le décalage, je me réveillais à Calgary à 3h du matin, 4h du matin. Et ce n'était pas évident, j'étais fatigué. Donc j'étais dans l'avion hier, avant-hier, en revenant, toute la journée, du matin jusqu'à 11h, parce qu'il y avait des retards en route. Alors que je reçois, je crois que c'était à Toronto, le texte du pasteur Calvérac de Bruno et Marjorie qui demande « Est-ce que tu peux assumer, amener une prédication ce dimanche ?» Et puis j'ai dit « Ouais, bien sûr, si Jonah n'est pas disponible, parce que j'étais sûr que Jonah serait disponible. » Et quelques minutes plus tard, « Jonah n'est pas disponible. » Jonah qui a répondu qu'il n'était pas disponible. Donc, j'ai dit, OK, maintenant, il faut que je le fasse. Donc, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à avoir l'énergie, la force ce matin de pouvoir vous apporter quelque chose. Et voici, je monte cette annonce d'un cours Kairos qui va avoir lieu très bientôt. Puis, en effet, si je décris notre passion, notre ministère, c'est de susciter les apôtres. C'est de susciter ceux qui sont parmi le peuple de Dieu, qui sont appelés à partir plus loin que les autres. Ce n'est pas toute la famille de Dieu qui est appelée à partir dans un peuple non atteint, mais je suis convaincu qu'il y a beaucoup plus de personnes dans nos églises qui ont cette compétence, qui ont cet appel, et qui sont appelées à partir vers des voisins qui sont des peuples peu atteints, même dans leur voisinage, et bien sûr que des gens soient envoyés à l'extérieur dans d'autres pays. Alors, je vais toujours venir là-dessus. C'est une passion que Dieu nous a donnée depuis le commencement. Et on a vécu sur trois continents. Et puis, je vois que Dieu n'a pas changé cet appel. C'est d'interpeller, d'appeler les apôtres à se lever. Cette semaine, je me suis réjoui. Il faut que je ralentisse un peu pour que le français revienne. Je me suis réjoui parce que, en effet, nous étions en train de discuter sur, je ne sais pas, peut-être une trentaine de missionnaires, d'ouvriers qui sont dispersés dans le monde, un grand nombre, surtout les gens plus âgés comme moi, qui travaillent parmi les peuples déjà bien atteints, les peuples qui sont très bien évangélisés et d'ailleurs qui sont mieux évangélisés que le Canada, et l'Église est en croissance. Mais il y a environ 10 ans qu'il y a une nouvelle vague qui a commencé à apparaître. Et ça, c'est des gens qui se levaient dans nos églises, qui disaient « Dieu m'appelle à partir dans les endroits difficiles. Dieu m'appelle aller vers des gens qui n'ont aucun accès à l'Évangile, qui n'ont pas d'église viable parmi eux, qui ont si peu de chrétiens qui ne peuvent même pas entendre l'Évangile. » Alors, c'est bouleversant de voir cette vague qui est apparue il y a 10 ans, mais de voir que Dieu est en train d'accélérer encore. Nous avons 9, je crois en ce moment, 9 jeunes âgés de 19 à 32 ans qui sont prêts à partir vers le Moyen-Orient. Qui se préparent, qui sont en train de chercher le soutien, mais qui n'ont pas de grandes formations, qui n'ont pas fait forcément des années d'école biblique, mais quand même qui ont cette vocation, cette persévérance, ce désir, et puis nous savons que nous allons les former en cours. Alors, on a décidé que si on met beaucoup de barrières devant les gens, ils vont se décourager puis ils vont abandonner. Donc le choix que nous avons fait, c'est on va amener les gens en mission. Et ils seront formés au fur et à mesure que nous avançons avec le travail de Dieu. Alors, nous avons des défis dans le Moyen-Orient en ce moment parce qu'il y a un pays où on a beaucoup d'ouvriers qui refusent les visas. Il y a environ 10 personnes qui sont à risque de perdre les visas, pas parce que le gouvernement est opposé aux chrétiens, mais parce qu'il y a des problèmes économiques énormes qui se passent dans leur pays et avec les choses qui se passent dans le monde autour d'eux. Il y a des pressions qui viennent de l'extérieur. Je crois qu'ils ont vécu 70% d'inflation depuis un an. Et puis les prix des logements sont devenus fous et c'est les étrangers qui peuvent aborder les prix présents. Donc pour apaiser un peu la population, je crois qu'ils sont en train de refouler, de refuser les visas. Donc On prie avec ces gens-là parce qu'il y en a qui sont installés depuis des années. Il y a d'autres qui sont en chemin pour venir. Puis on dit, Seigneur, que es-tu en train de faire? Que veux-tu qu'on fasse dans cette situation? Parce que tu es pleinement au courant de ce qui se passe. Bon, voilà, donc ça a été une très belle semaine, mais aussi une semaine où il y avait des défis à discuter et des choses à prier. Voilà, donc, cette papier se trouve à l'arrière sur le comptoir de la bibliothèque et vous allez pouvoir, si ça vous interpelle, de vous inscrire dans ce cours qui va commencer le 25 avril, le mardi soir, en ligne. Nous aurons 6 sessions en ligne pendant quelques semaines et puis ensuite un rendez-vous superbe, un rendez-vous divin au Carrefour chrétien de la capitale. Et c'est pour les dernières 3 sessions. Personne qui passe par ce cours sort en disant que ben, c'était banal. Tout le monde sort disant que c'est quelque chose qui m'a bouleversé, quelque chose qui a transformé ma vision du monde. Maintenant, que faire avec par la suite? Ça, c'est autre chose. Mais ça retombe dans la main de chacun. Donc, si on peut faire passer la petite vidéo annonce.
Peut-il y avoir plus dans notre vie chrétienne? Il existe de nos jours des milliers de cultures sur la planète, représentées par des milliards de personnes. La plupart d'entre elles sont encore perdues, et elles sont de plus en plus nombreuses à se trouver juste à côté de chez nous. Mais sommes-nous prêts à agir? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Qu'est-ce qui nous en empêche? Est-ce parce que nous sommes tout simplement dépassés? Ou peut-être est-ce parce que nous ne savons pas quoi faire, car nous ne sommes pas préparés? Ou est-ce parce que nous sommes tout simplement trop occupés? Dieu, que fais-tu dans cette situation? Et quelle place désires-tu pour moi?
Si vous vous êtes posé ces questions, vous n'êtes pas le seul. Nous avons tous eu du mal à comprendre la grande histoire à laquelle nous prenons part. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible a pour thème principal Dieu qui cherche sans relâche à restaurer toute la création. Et retenez ceci, au cœur de la mission de Dieu, il y a vous et moi.
Des Philippines à l'Europe, du Canada au Moyen-Orient, Dieu agit par le biais de personnes ordinaires qui conforment leur histoire personnelle à la sienne. Elles vivent chaque jour dans une entière obéissance à Jésus, là où elles se trouvent. Lorsque nous comprenons que la mission est celle de Dieu, le poids du monde nous est enlevé des épaules. Il n'y a que Dieu qui peut sauver le monde, ce n'est pas à nous de le faire. Mais il nous invite à participer. Le temps, c'est maintenant. L'endroit, c'est ici. La personne, c'est vous.
Le cours Kairos jette les bases qui permettent de prendre les décisions du quotidien ainsi que les grands choix dans la vie en comprenant le cœur et la mission de Dieu dans le monde. Le cours Kairos va changer votre façon de lire la Bible. Il vous enseignera comment interagir avec d'autres cultures que la vôtre et vous inspirera des initiatives. Il vous aidera à voir clairement dans le rôle de la mission de Dieu et commencera à vous préparer pour l'accomplir. Rejoignez-nous au cours Kairos.
Alors, que Isaac soit une prémisse de ce que Dieu va faire ressortir du Québec. Matthieu 14, versets 22 à 33. Je vais le lire dans la Bible du Semeur, la version du Semeur. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par des flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent de cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils remontèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient toujours dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Le verset 34. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génésaret. Seigneur, je prie que tu viennes appliquer les paroles, que tu viennes réveiller cette parole en nous. Seigneur, je sais que c'est quelque chose que tu es en train de travailler dans mon cœur aussi en ce moment avec les nouvelles étapes que tu nous donnes à franchir, Seigneur, devant nous. Mais je prie, Seigneur, que ce message touche plusieurs personnes, chacun dans le domaine dont où il a besoin spécifique de l'entendre, parce que ta parole est puissante. Au nom de Jésus, amen. Alors, la première des choses que, qui m'a marqué ici, c'est que Jésus, c'est lui qui envoyait les disciples dans la barque. C'est lui qui leur dit, montez dans la barque, traversez à l'autre bord du lac, et là, je vais vous retrouver de l'autre côté. Alors, la situation où se trouvaient les disciples n'était pas quelque chose qu'ils ont choisi de leur propre gré. Ils étaient dans la barque parce que Jésus leur a dit, va là-dedans. Vas-y, je vous envoie afin que vous me rencontriez de l'autre côté. C'était par obéissance. Et souvent dans la vie, au fur et à mesure que je mûris, au fur et à mesure que je vieillis, je vois dans ma vie des situations, des tempêtes que j'ai vécues pendant ma vie qui n'étaient pas créées, qui n'étaient pas le fruit de l'obéissance. Mais souvent, c'était par la désobéissance, ou plutôt tout simplement parce que je voulais diriger ma vie de ma propre façon. Et quand je vois beaucoup de gens, souvent dans les églises, qui vivent dans des problèmes, dans des problèmes dans leur mariage, dans leur couple, les enfants qui créent toutes sortes de problèmes, même des problèmes financiers, je dirais tout genre de choses, de situations catastrophiques que les gens vivent, je me pose la question, mais qui est au volant de leur vie? Est-ce que c'est parce qu'ils ont pris des décisions en dehors de la volonté de Jésus, sans lui consulter, sans lui demander « Que veux-tu que je fasse ? Que veux-tu que je fasse de ma vie ?» Ou est-ce que c'est parce qu'ils ont dit « Je mène ma vie et je te demande, Seigneur, de m'accompagner là-dedans. Que toi, tu viens à la suite, que tu me suives au lieu de mettre Jésus à l'avant. » Mais ce n'était pas le cas des disciples. Les disciples étaient un gang d'hommes qui avaient leurs défauts. qui avait des incroyables manques de foi, on va voir même souvent un grand manque de discernement, mais quand même qui était en train de marcher, de suivre Jésus, tout simplement parce que Jésus a dit, viens, suis-moi. Aucun contrat, Jésus n'a pas dit, voici les conditions, hein, si vous me suivez, voici ce que je veux faire, voilà, on va signer ici ensemble. Non, Jésus a dit, viens, suis-moi. C'est fort quand même comme invitation. Quand Jésus dit « Viens, suis-moi », et puis des gens déguerpissent, ils laissent tout, ils abandonnent tout et ils le suivent. Mais voici ce qui se passe, ces gens qui marchent en obéissance au Seigneur. Mais quelque chose à signaler ici, c'est quand nous marchons en obéissance, quand nous faisons de lui le Seigneur de notre vie, il va nous envoyer dans des endroits, dans des situations qui sont inconfortables. Voilà, il va nous envoyer dans des situations qui sont étranges, inhabituelles. Il va nous envoyer dans des situations où même c'est très risqué. C'est marrant que voilà, souvent nous lisons les histoires, les récits de ces hommes et des femmes de Dieu, et puis on les bénit, puis on dit voilà, ils sont fabuleux, mais on ne se rend pas compte combien pour eux la vie était inconfortable. Combien pour eux, il y avait des risques à entreprendre afin de suivre, à obéir à Dieu. Mais Jésus nous positionne là où il veut travailler. Il a envoyé les disciples à l'autre bord. Pourquoi? Parce que Jésus avait l'intention de les rejoindre pour faire son travail de l'autre bord. Jésus, si vous faites de lui votre maître, je vous assure qu'il va vous envoyer dans des endroits, dans des situations inconfortables. Ça, je vous l'assure, mais il faut qu'on fasse la différence. Est-ce que je suis dans telle situation parce qu'il n'est pas Seigneur de ma vie? Ou est-ce que, Seigneur, l'ennemi est en train de me dire que, voilà, c'est ma faute, j'ai fait une gaffe? Ou est-ce que, Seigneur, je suis dans cette situation parce que toi, tu m'as envoyé justement là-dedans? Es-tu en vie de faire quelque chose à travers moi dans la situation? On voit aussi que les disciples se sont trouvés dans une tempête. Imaginez-vous que vous êtes au milieu d'un lac qui, je crois, la largeur, c'était 13 kilomètres. La version Louis Segond, qui est plus fidèle à l'original grec, dit qu'ils étaient au milieu du lac. Donc, on va dire 6 kilomètres environ. La nuit, en pleine tempête, puis il n'y avait pas d'électricité à l'époque. De nos jours, nous avons quand même des phares. De nos jours, on va pouvoir voir des villages. Écoute, en venant en avion ici sur la ville de Québec, on voit de loin la ville de Québec. On voit Trois-Rivières, on voit les différents villages, il y a de la lumière partout. Alors que ces pauvres mecs qui étaient là dans leur barque, ils n'avaient rien comme point de repère. À part peut-être qu'ils voyaient peut-être l'horizon, un peu la forme des montagnes, des collines, et puis c'est par ça qu'ils étaient en train de naviguer, parce qu'ils ramaient quand même. Mais et puis, c'était à 3 heures, entre 3 heures et 6 heures du matin quand cet événement se passe, quand Jésus vient les rencontrer. Aucune lumière, battu par des flots, torturé, dit la Bible, et le vent était contraire, le vent était opposé. Donc, quand on dit que le vent était opposé, je présume qu'ils savaient qu'ils devraient partir dans ce sens-là, peut-être à cause du vent normal, mais le vent était si fort que, fur et à mesure qu'ils ramaient quand même, ça n'avait aucun effet. Ils n'avançaient pas et puis ils craignaient qu'ils soient naufragés. Et la Bible dit que ce vent s'appelait un anémos, ils utilisent un autre mot, un anémos, c'est un vent violent, un vent destructeur. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ce n'est pas le vent de l'Esprit de Dieu qui est un pnoé, selon Actes 2:2. Ça parlait aussi d'un vent violent qui était vécu, qui était expérimenté le jour de la Pentecôte. Ce n'était pas du tout le cas ici. C'était vraiment une opposition forte. Alors, vivre pour le Seigneur va provoquer des tempêtes dans notre vie. Vivre pour le Seigneur, à moins que vous trouviez le contraire, et dites-le-moi, mais j'ai trouvé que plus que je veux servir Dieu, plus j'ai des tempêtes que je dois affronter. Ce week-end passé, nous étions partis vendredi pour partager dans deux églises à Gatineau, Gatineau et Wakefield. Arrivé entre Trois-Rivières et Repentigny, notre voiture crève. Le moteur s'arrête. Le tableau s'allume, le moteur s'arrête, ça ne roule plus. Donc, c'était déjà arrivé il y avait quelques jours avant, les mécaniciens n'ont pas pu trouver de problème. En fin de compte, nous avons prié, on a prié, je vous assure, on était sur l'autoroute, on a pu monter la rampe. J'étais obligé même de pousser la voiture pendant que Lorraine conduisait pour traverser la rue. Et puis ensuite, on a prié encore, la voiture a pu se rendre dans un village. Tous les mécaniciens avaient déjà fermé pour la journée. Je dis, oh, c'est pas possible. Mais on voyait que la voiture marchait. Le tableau était allumé comme un sapin de Noël. Mais je dis, Seigneur, est-ce qu'on continue sur Gatineau? Est-ce qu'on annule le week-end? Et on revient chez soi. En fin de compte, nous avons décidé quand même d'essayer de repartir à Trois-Rivières pour nous rendre au concessionnaire Toyota parce qu'on n'avait pas suffisamment de foi pour continuer sur Gatineau dans cet état-là. Alors, on arrive à Trois-Rivières, pour ne pas entrer dans les détails, arrivé à la concession, je crois qu'on faisait peut-être 2 km à l'heure. Je crois qu'il y a beaucoup de gens à Trois-Rivières qui sont fâchés parce qu'il y avait un vieux bonhomme dans sa voiture qui faisait 2 km à l'heure sur le boulevard. Et arrivé à l'entrée de la concession, je dis, Seigneur, si ton ange ne nous pousse pas, parce qu'il fallait monter quand même une pente de 2 pieds, peut-être d'élévation, je dis, à moins que ton ange intervienne, on ne va pas pouvoir monter dans la concession. Et Dieu a étendu sa grâce. Je crois qu'il y a un ange qui est venu tout en riant, qui nous a poussé la voiture. Arrivé à la concession, on stationne. Après cela, la voiture n'a pas pu bouger. Alors, la voiture est toujours dans la concession. Ils ne trouvent pas le problème. Ils sont en train de contacter Toyota Canada pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais c'était difficile. Mais gloire à Dieu, ils avaient une voiture de courtoisie, donc une voiture de location. Alors, nous avons pu faire le week-end à Gatineau. Mais ce n'est pas évident parce que voici notre voiture à une heure de route à Trois-Rivières et puis on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Voilà, il y a des tempêtes que Dieu lève. Le soir où nous étions à Gatineau, on devrait prêcher le dimanche, le samedi. Il y a une tempête de neige en plus. Donc, on a dû faire le culte en live, en direct. Et là, c'était devenu marrant parce que je dis, Seigneur, c'est un peu trop, quoi. Ça, c'est une... Satan exagère maintenant quand il fait... Les choses sont tellement visibles. Voilà, mais c'est une fausse croyance de croire que lorsque nous vivons une vie qui est calme, qui est paisible, qui est sécure, que ça, c'est signe de la présence et du plaisir du Seigneur. C'est tout à fait le contraire quand on regarde dans la Bible. On voit que Jésus était constamment sous attaque, hein? Tout à travers son ministère. Il y avait toujours des obstacles, il y avait toujours de l'opposition. On voit les héros de la foi dans la Bible. C'est des gens qui avaient toujours de l'opposition. Ils étaient toujours des cibles de l'ennemi. Parce que la préoccupation de Satan, c'est de voler, égorger et détruire. De voler notre joie, de voler notre liberté, tout ce qui peut voler nos relations, de détruire tout ce qui peut. Et il est toujours en action afin de nous détruire. Mais gloire à Dieu, comme le pasteur Christophe a dit ce matin, il est en dessous de nos pieds. Mais quand même, il nous mord le talon. Hein? Il nous mord le talon. Alors une personne qui est rachetée par le Seigneur est d'office un ennemi. Un ennemi du royaume des ténèbres. Et c'est pour cela que Paul va utiliser un langage très militaire, disons. Il va parler de soldats, il va parler de l'armure, il va parler des armes de la foi. En effet, Paul est en train de nous dire que quand Jésus nous sauve, il nous met dans son équipe, c'est avec le but que nous assaillons les portes de l'enfer. Ce n'est pas pour que nous ayons une belle vie facile et paisible, mais c'est pour que nous le rejoignions dans ce qu'il est en train de faire. Et ça, c'est de détruire, c'est de démanteler les portes d'enfer et de piller l'enfer de ses habitants, qui sont les gens emprisonnés par l'ennemi. Voilà, donc nous sommes des soldats, nous sommes soit des soldats actifs et vainqueurs, ou soit, si on décide d'être passif, on vit souvent comme des victimes. Mais c'est dans cette condition de combat, de conflit, dans cette situation où le vent vient nous opposer, que nous puissions connaître la paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Je vais juste lire Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Wow! Même dans ce conflit, le Seigneur nous dit, mais rendez-moi grâce là-dedans. Amenez vos besoins, amenez vos requêtes, absolument. Mais en même temps, remerciez-moi, un, pour les choses que j'ai déjà faites dans votre vie et pour les choses que je ferai pour vous. Et puis il dit ensuite, et la paix de Dieu. Donc, dans des situations qui doivent normalement nous inquiéter, qui doivent nous stabiliser, qui ont été créées afin de nous déstabiliser. Et dans cette situation, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vient pour garder nos cœurs et nos pensées en Jésus. Alors c'est plein dans la tempête que Dieu veut que nous vivions cette paix inexplicable. C'est pleinement dans ce temps. Ça a été une semaine de combat pour moi parce que en traitant des problèmes au niveau de notre mission, j'étais en train de traiter des problèmes au niveau de l'équipe en France avec qui nous allons travailler, déménager en France dans le mois d'août pour diriger une équipe. Et puis il y a des problèmes. Il y avait beaucoup de choses qui venaient me déstabiliser. Et vendredi matin, c'était lourd, c'était costaud, 3h du matin. Et en fin de compte, j'ai mis de la musique d'adoration en marche. Et puis je me suis mis à adorer le Seigneur et le poids s'était levé et la foi est venue remplir encore la place où l'angoisse était en train de me ronger, de détruire ma paix. On voit ensuite que quand Jésus s'est manifesté, les disciples étaient troublés au point de crier. Imagine-toi 11 mecs dans une barque qui sont déjà abattus, cassés. Et puis voir quelqu'un qui marche sur l'eau. Ça criait. Quand nous avons débuté notre ministère au Burkina Faso, on organisait des campagnes d'évangélisation, puis on utilisait le film Jésus. Et je n'ai jamais oublié cette scène là-dedans, en effet, c'est cette scène-ci. Et puis, alors que Jésus dit « calme-toi » et la tempête se calme, il y a toujours un ou deux disciples qui ont les yeux fermés, qui sont dans la barque, qui crient « sauve-nous !» On va mourir. On va mourir. Nous allons mourir. Et puis, j'imagine que c'était un peu le cas, ces hommes qui criaient à haute voix, fort parce qu'ils voyaient le salut qui venait, mais ils n'ont pas reconnu de quoi il s'agissait. Mais ça me marque aussi que souvent, ça m'enseigne que souvent, nous ne reconnaissons pas la présence et l'action du Seigneur. Souvent, on ne reconnaît pas la présence et l'action du Seigneur parce qu'il peut nous paraître dans une forme qui ne nous est pas familier, d'une façon que nous n'avons pas vécue auparavant. Il vient dans un contexte inhabituel. Il est très facile dans des cultes comme nous avons vécu ce matin, dans le temps d'adoration comme ça, de reconnaître, de vivre, de ressentir la présence de Dieu. C'était « wow » ce matin. Ça, c'était facile de ressentir la présence de Dieu. Il fallait être sourd, muet, puis paralysé, puis je ne sais pas quoi encore, presque mort, pour ne pas ressentir que Dieu était présent, qu'il était à l'œuvre. Et puis de chanter, de répondre par une joie avec une foi. Mais ce n'est pas toujours de cette façon que le Seigneur nous vient. Et par finir, nous pouvons même nous battre contre le Seigneur. Nous pouvons même croire que voilà, ça c'est l'ennemi, puis on prend une position spirituelle, en fait, du combat spirituel. Je dis, mais c'est pour cela que nous avons vraiment besoin du discernement, parce que imagine-toi qu'on essaie de battre contre Dieu lorsqu'il est en train de faire quelque chose, parce que nous n'avons pas pris le temps pour dire, mais Dieu, d'où est-ce que cette situation vient? Qu'est-ce que ce vent signale? Cette apparition qui est là devant nous, qui nous semble très effrayant, qu'est-ce que ça signifie? Qu'es-tu en train de faire? D'où vient ce crainte? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Mais alors qu'il y en a adoré ce matin, j'ai pensé au fait que souvent c'est fou combien je peux avoir peur dans la vie. C'est fou combien je peux douter de mon Seigneur dans la vie quand je ne fais que regarder l'univers. Passer du temps sur Internet, je vous donne permission pour ce but précis, mais de googler combien de planètes existent dans l'univers. Alors, je suis tombé là-dessus il y a quelques semaines et je dis, j'ai du mal même à comprendre les mots que je suis en train de réciter. Mais ce qui est observable, ce qui est visible avec tous les équipements, toute la technologie que nous avons, déjà, les scientifiques disent qu'il y a environ 7, le numéro 7, suivi de 20 zéro planètes dans le monde. Maintenant, j'ignore le chiffre en anglais, je ne sais pas si c'est quadrillion ou quoi, quintillion, je crois que c'est quintillion. Un quintillion, c'est des chiffres inimaginables. Et ça, c'est les planètes. C'est les planètes visibles, qui nous sont visibles avec toutes nos limitations. Alors, qu'est-ce qui existe en dehors de cela? Et puis, la folie de tout cela, ça a été créé comment? Ça a été créé comment? C'est venu à l'existence comment? Dieu qui a dit, soit. Soit. C'est simple, hein? Il a dit, soit. Alors, Dieu qui a pu créer tout cela avec une simple parole, avec sa simple volonté, parfois on a besoin de se ressaisir pour dire, écoute, les conflits que nous vivons, les problèmes auxquels nous faisons face ne sont rien pour toi, ne sont rien. Je crois que souvent nous doutons que Dieu est aux commandes. Ça, je sais que pendant la pandémie, il y avait beaucoup d'opinions là-dessus. Mais moi, j'étais fort convaincu que Dieu n'a pas été pris, à l'improviste. Que Dieu n'avait pas été pris à l'improviste. Il était bel et bien au courant de la chose et que Dieu voulait travailler à travers la situation. Et fur et à mesure que vous recherchez les choses qui se passent dans le monde, j'espère que vous allez prendre le temps de le faire, mais c'est bouleversant de voir comment Dieu a utilisé la pandémie pour accomplir son œuvre. Je sais pas, je crois que je vous ai partagé ces nouvelles-là, mais on dit que dans la Chine, les polices étaient tellement occupées, enfermées les gens de la pandémie, et puis le gouvernement n'avait plus de moyens aussi pour embaucher des policiers, que pour la première fois depuis des décennies, l'Église avait une liberté incroyable. Donc l'Église a grandi pendant la pandémie de façon explosive. Il y en a qui estiment en Inde que l'Église a grandi de 2 ou 3 fois. De 2 ou 3 fois pendant cette pandémie qui nous déstabilisait autant. Et souvent nous disons ces paroles, voilà, que toutes choses concourent au bien de celui qui l'aime, qui aime Dieu et qui est appelé selon ses desseins, selon ses plans, lui. Mais nous le disons de notre bouche, mais parfois on a du mal à croire que telle situation, ou tel problème ou telle chose pouvait aboutir à notre bien. Parfois, je crois aussi qu'il y a un manque d'attente. Les disciples ne s'attendaient pas à ce que Jésus vienne marcher sur l'eau. Je ne sais pas quoi, ils s'attendaient à se noyer, c'est ça. Parce qu'il n'est même pas écrit qu'il crie « Seigneur, viens nous sauver ». On ne sait même pas s'il priait. Hein? Je crois que c'était simplement la survie. Ils étaient en train de décider qui larguait de la barque pour apaiser le poids. Et voilà qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Dieu vienne. Écoute, quand vous passez par des tempêtes, attendez-vous à ce que le Seigneur agisse. Laissez votre vie être marquée par un esprit d'attente. Moi, je ne sais pas à quoi m'attendre avec la situation de ma voiture, franchement. Mais je dis, OK, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Elle est là depuis 8 jours, 9 jours, il ne trouve pas la solution. Mais Seigneur, je ne comprends pas sur le plan humain combien ça va me coûter, à quoi ça va aboutir, mais Seigneur, j'ai confiance que tu veux faire quelque chose pour nous surprendre, que tu es à l'œuvre dans la situation. Donc les pandémies, les guerres, même les tremblements de terre sont tous des situations inhabituelles, des situations que nous ne voulons pas, et nous pouvons réagir en criant, en pleurant, en croyant que Dieu nous a abandonné ou en disant « Seigneur, que es-tu en train de faire dans la situation ? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans la situation ?» Maintenant, je fais référence au tremblement de terre parce que on a beaucoup d'amis qui habitent dans ce pays, des ouvriers chrétiens, et qui répondent à la situation, qui ont pris de leur argent, de leurs économies, qui ont acheté des pansements, des vêtements, des couvertures, de l'eau, des aliments, des couches de bébés, des médicaments, qui ont loué des bus et qui les ont apportés dans la zone pour apaiser la population. 50 000 morts dans ce pays. Et puis le pays qui est à côté, la Syrie aussi, a connu beaucoup de morts. Alors Dieu est à l'œuvre dans la situation. C'est catastrophique. C'est terrible. Mais il y a une ouverture qui est là, qui est incroyable. Et pour la première fois, il y a des gens qui sont en train de se poser la question. Où est Dieu? Où est Dieu? Des gens qui se disent, mais j'ai tout perdu. C'est quoi l'espérance de la vie? À quoi est-ce que je peux espérer? À quoi est-ce que je peux attendre? Et puis les gens que nous connaissons qui sont dans ce pays disent qu'il y a vraiment des occasions qui se présentent, des occasions incroyables d'apporter l'amour et l'espérance du Seigneur dans la situation. Je vous lance aussi l'invitation, si c'est quelque chose que vous aimeriez aider. Notre mouvement a lancé l'invitation et puis on a pu collecter plus de 170 000 de dollars pour aider dans cette crise. Et maintenant, ils sont en train de fabriquer des toilettes de base qui sont des toilettes à compostage, des toilettes à compostage pour empêcher que le choléra vienne ravager la population. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez nous voir après. Voilà, maintenant le Seigneur leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Est-ce qu'il a calmé la tempête? Pas tout de suite. Les disciples étaient toujours en train de, de crier. La barque était toujours déstabilisée, l'eau était toujours en train de les vagues étaient toujours en train de frapper la barque. Mais Jésus a dit, je suis avec vous maintenant. N'ayez pas peur. Pourquoi est-ce que Jésus aurait fait cela? Pourquoi? Je crois que c'est tout simplement parce qu'il nous invite toujours à devenir actionnaires avec lui. Parce que Jésus leur donnait l'occasion de répondre à sa voix, de répondre par la foi et de se calmer, de se rassurer et dire oui, Jésus est présent avec nous. Maintenant, nous connaissons la fin de l'histoire, nous savons que Pierre s'est élevé, que Pierre dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, appelle-moi à marcher sur l'eau, à te rejoindre. Puis souvent, nous soulignons cette partie-là que voilà, Pierre commence à descendre, il perd son courage. La Bible dit qu'il observait le vent. Je ne sais pas comment on observe le vent, mais voilà. Il observait les effets du vent, justement. Pierre a vu les effets du vent et puis celui a fait peur. Il a commencé à couler dans l'eau. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a répondu par la foi. Puis nous avons tendance à dire, mais écoute, Jésus lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et je dirais que longtemps, je voyais ça comme une petite reproche de la part du Seigneur. Et j'ai une soupçon maintenant que ce n'est pas le cas. Je soupçonne que ce n'était pas du tout une reproche, c'était un constat. Mais un constat qui était prononcé avec un grand sourire. Parce que l'homme qu'il était en train de saisir par la main pour le sortir de l'eau venait de faire quelque chose qui est absolument stupide. Il venait de faire quelque chose qui est impossible parce que pendant quelques mètres, il a pu marcher sur les eaux. Il a pu marcher sur les vagues. Et je suis convaincu que Jésus n'était pas en train de taquiner ou de reprocher Pierre, mais c'est les onze. Il dit, homme peu de foi, oui, il s'adressait à Pierre, mais je crois que ses yeux étaient fixés sur les onze qui étaient toujours dans la barque. Au secours, on va mourir! Avec les griffes enfoncées dans les planches. Hein? Et regardez les onze qui étaient dans la barque, qui n'ont pas osé. Qui n'ont pas osé, qui n'ont pas eu le courage de dire, mais si c'est toi, invite-moi à m'approcher de toi sur les eaux. Alors voici la raison pour laquelle je crois que le Seigneur n'a pas calmé la mer immédiatement, parce qu'il veut, il veut pas, le plan de Dieu n'est pas qu'il nous ait une vie facile, mais son plan est que nous ayons une vie abondante. Il veut que nous ayons une vie abondante. Et cette vie abondante ne se trouve pas dans la facilité. Cette vie abondante ne se trouve pas dans le confort. Cette vie abondante ne se trouve pas dans le train-train de la vie où on sait exactement comment les choses vont se passer, on se lève, on va au travail de lundi au vendredi, on va au culte le dimanche, mais cette vie abondante se trouve dans les combats, dans les tempêtes, dans les entreprises spirituelles, dans le fait que nous avons osé faire quelque chose pour le Seigneur en obéissance, un vouloir de voir à Dieu agir dans notre vie, dans notre ville, dans notre quartier, dans notre voisinage, au sein de notre travail, dans le vouloir de voir Dieu faire quelque chose. Nous avons pris des risques. Nous avons essayé de faire quelque chose. Et dans cela trouve la victoire. Dans cela se trouve la vie abondante. J'ai toujours pris l'exemple de quelqu'un qui va chez Walmart et malheureusement, les confessant que les chrétiens nord-américains sont des consommateurs. N'est-ce pas? On est un peu consommateurs. Hein? On veut que l'église soit correcte, la musique soit superbe, et puis le stationnement soit facile, et puis voilà, que le culte n'aille pas trop long. Hein? Si ça va longtemps, ça va brasser. Mais tu sais, quelqu'un qui achète à Walmart, il s'en va, il achète ses bagages, ses épiceries ou quoi qu'il soit. Pour lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est que le prix soit bon. Hmm? Que le prix soit bon, que Walmart fonctionne bien ou non, il s'en fout. Il s'en va pour bénéficier, pour recevoir quelque chose pour lui qui répond à ses besoins. Mais quand quelqu'un devient actionnaire de Walmart, tout bascule. Je veux que Walmart soit bien géré. Je veux que Walmart réussisse. Je veux que Walmart grandisse. Je veux que Walmart se répand partout, que ça se multiplie. Alors que je crois que c'est le même cas pour le Seigneur. Je sais que c'est le même cas que le Seigneur nous invite à devenir actionnaires avec lui. Et si nous voulons être actionnaires, il faut que nous soyons prêts à être confrontés par les vagues. Il faut que nous soyons capables de dire que Jésus est présent au milieu de cela. Il ne m'a pas abandonné. Il faut que nous apprenions à dire que, Seigneur, je sais qu'à la fin de cette tempête, ça va déboucher sur quelque chose, un changement en moi, un changement dans mes capacités, un changement dans ma foi qui va changer, qui va me lancer en avant dans des nouvelles choses, dans des nouvelles victoires que tu veux accomplir. Voilà, je vous encourage, j'espère, à ne pas avoir trop peur des tempêtes. Et je le dis parce que nous vivons dans une tempête actuellement, avec les choses qui se passent. Et voilà, prions ensemble. Seigneur, j'aimerais prier pour ceux qui sont présents. Seigneur, qui peut-être ne t'ont jamais donné la seigneurie de leur vie, qui n'ont jamais cédé le volant, qui n'ont jamais dit « Je te donne ma vie, fais de moi ce que tu veux faire, utilise-moi comme tu veux m'utiliser. » Seigneur, c'est une vie que tu n'as pas conçue pour nous parce que tu nous invites à devenir actionnaires avec toi. Tu nous invites, en tant que tes enfants, à céder le volant, à nous embarquer dans les choses que tu veux faire en nous et à travers nous. Seigneur, je prie pour cela, pour des gens qui sont dans cette situation, peut-être qui vivent des tempêtes, qui vivent des situations peut-être qui sont créées, qui ont été créées, parce qu'ils ont tenté de mener leur vie de leur façon. Et je prie que tu les appelles avec ta douceur, que tu les interpelles, que tu leur dis... Vous êtes alourdi avec des fardeaux que vous n'avez pas besoin de porter. Vous êtes écrasé parce que vous essayez de travailler sous un joug qui n'est pas le mien. Alors, Seigneur, je prie que si quelqu'un se trouve dans cette situation, qu'ils soient interpellés par ton amour et qu'aujourd'hui, ils fassent de toi le Seigneur. Et ils disent, viens, prends ma vie. Dirige ma vie désormais. Là où veux-tu que je m'en aille, j'irai. Ce que tu veux que je fasse de ma vie, je le ferai. ce que tu veux que je sois, je deviendrai par la grâce, par ta puissance dans ma vie. Seigneur, je prie pour chacun, Seigneur, qui vit une tempête aussi dans sa vie, qui n'est pas forcément à cause d'un choix, un mauvais choix, qu'il a fait, mais Seigneur, peut-être c'est simplement des tempêtes, l'opposition de l'ennemi. Et que cette personne se dit, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi je suis en train d'être brassé par telle chose alors que je crie au Seigneur. Je me prosterne devant le Seigneur. Je me cède et je donne ma volonté complètement au Seigneur. Seigneur, je prie que tu viennes manifester ta présence dans la situation. Que tu viennes manifester, Seigneur, ton amour, ton assurance et ta paix dans la vie de cette personne. Et qu'elle sache qu'elle ne va pas noyer, elle ne va pas se noyer dans la situation, mais que tu vas venir à son aide et que tu attends à faire quelque chose lorsqu'elle arrive à l'autre bord de cette tempête. Voilà. Seigneur, nous avons soif de toi. Merci pour ce que tu fais au Québec. Merci Seigneur, parce que nous ressentons que tu es en train de faire quelque chose dans cette province et dans cette ville. Seigneur, tu es en train de faire quelque chose dans le monde. On voit sur Internet, Seigneur, le réveil qui se passe à Asbury. Nous voyons des réveils qui se passent en Israël. Nous voyons, Seigneur, des lumières, des réveils qui se passent partout dans le monde et que tu es à l'œuvre dans le monde. Oh Seigneur, nous avons soif que tu fasses quelque chose dans cette ville et nous prions, Seigneur. Nous prions que tu nous utilises, Seigneur. Que tu te sers de nous dans ce que tu veux faire dans cette ville et dans cette province. Oui, Seigneur. Pour ceux qui sont souffrants aujourd'hui, qui vivent la tempête de la maladie, Seigneur, nous prions que tu détruises tout ce que l'ennemi voudrait faire pour les affaiblir, pour les décourager. Et nous demandons qu'à la place, Seigneur, que ta force vienne les remplir et que ta guérison vienne toucher leur corps. Pour ceux qui sont en deuil, Seigneur, le pasteur Christophe, Seigneur, et la famille de nos amis Burkinabé qui vient de perdre leur père, le pasteur, hier. Pour multiples, nombreuses personnes ici, Seigneur, qui ont vécu des deuils dans leur famille. Seigneur, je prie que tu viennes déverser ton onction au milieu de ces choses-là, de ces tempêtes. Et que nous puissions quand même nous lever et dire, quoi qu'il m'arrive, quoi qu'il nous arrive, nous savons qui est Dieu et qu'il n'a pas perdu le contrôle et qu'il est en train d'agir dans la situation et que je verrai la bonté de Dieu se manifester. Seigneur, nous te remercions. Nous te confions la semaine, Seigneur. Nous te demandons d'agir de façon spectaculaire dans nos vies, pour ta gloire. Au nom de Jésus, amen. Amen. Merci.
Merci Seigneur pour ta parole. C'est une lumière sur notre sentier. Seigneur, nous te remercions pour ton serviteur. Seigneur, je te prie pour le pasteur Bruce, Seigneur, pour ses défis actuels, Seigneur, que tu accomplisses ta volonté, Seigneur. Et Seigneur, que par la foi, Seigneur Jésus, tu lui accordes, Seigneur Jésus, ce que son cœur désire. Et Seigneur, que tu sois pour lui, Seigneur, une haute retraite. Au nom de Jésus, merci pour le repos en toi, Seigneur. Merci pour la restauration en toi, Seigneur. Merci pour ce que tu fais sur sa famille, Seigneur. Merci pour ces projets que tu as dans son cœur, des projets d'amener ton évangile toujours un peu plus loin, Seigneur. Seigneur, que tu marches à ses côtés chaque jour au nom de Jésus. Amen. Nous arrivons à la fin de ce merveilleux culte. Qui a été béni ce matin? Moi, j'ai été béni. Alléluia, alléluia. J'ai été béni par cette merveilleuse parole. Dieu nous invite à être ses partenaires, être partenaires avec lui. Dieu veut nous rassurer. Je notais beaucoup de choses et je suis sûr que, comme moi, vous allez ruminer tout ce qui a été dit ce matin. Moi, je vais ruminer. J'ai particulièrement entouré « Est-ce toi, Seigneur ?» Est-ce toi, Seigneur? Je vais essayer de décortiquer cela dans la semaine et je pense que Dieu va me bénir. Alors, avant de partir, notamment pour les femmes, il y a des mots pour vous. Donc, les femmes ont des mots qui sont préparés pour chaque femme de l'Église qu'elles pourront récupérer avant de sortir. Donc, ne partez pas sans avoir votre petit mot. C'est des mots pour vous encourager. C'est des mots pour vous dire que vous êtes précieuses aux yeux de Dieu. Donc, ne partez pas sans prendre votre mot. C'est une petite attention du comité des femmes. Alors nous allons nous lever et nous allons bénir Dieu pour ce merveilleux temps. Ne partez pas sans saluer votre frère, sans saluer votre sœur. Il y en a que je vois revenir, qui étaient partis au loin, à Ottawa, etc. Soyez bénis aussi. En tout cas, nous allons prier que cette semaine soit une semaine de victoire au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce merveilleux culte, Seigneur. Seigneur, tu nous as visités, tu nous as parlé, tu nous as, Seigneur Jésus, rassuré que tu es avec nous. Seigneur, nous voulons à cet instant te bénir, te rendre grâce et te recommander encore, Seigneur, cette semaine qui s'en vient. Nous croyons que tu es avec nous. Et si tu nous dis, Seigneur, d'aller, c'est que, Seigneur, tu es avec nous, que tu vas être avec nous, que tu vas nous rassurer et que tu vas nous amener à bon port. Seigneur, nous voulons avoir la foi de Dieu. Nous voulons avoir la foi que toi seul tu communiques par l'action de ton esprit pour entrer en possession de toutes ces choses. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez encouragés. Ne partez pas sans saluer votre frère, sans saluer votre sœur. Ne saluez pas seulement votre femme. Soyez bénis au nom de Jésus. Sois bénie Hélène, sois bénie Martial, sois béni. Alléluia. Soyez bénis.